Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour.
Je vais non pas vous présenter, mais dire quelques mots à la fois un peu sur vous, mais aussi sur le livre dont on va parler. Votre bibliographie est tout à fait conséquente. On y compte, si j'ai bien compté, près d'une vingtaine d'ouvrages. Le premier publié en 1993 à la prestigieuse LGDJ. Alors, tous les étudiants connaissent ce sigle, hein, la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Il était intitulé « Les enjeux de la protection sociale ». C'était en 1993, donc, preuve si besoin était que c'était déjà un sujet d'actualité. En 1996, le titre de votre deuxième ouvrage est un peu moins austère, « La folante histoire de la vache folle », mais le sujet n'en est évidemment pas moins grave. Et puis votre troisième livre, en 2002, il y a donc 21 ans, aborde un thème qui est au cœur de votre premier roman, celui que l'on va présenter aujourd'hui et que je montre à la caméra, Les Solastalgiques. Et ce livre de 2002 s'intitulait « Ces peurs qui nous gouvernent ». Donc vous publiez chez Stock, votre éditeur habituel depuis 2010, Les Solastalgiques. Alors, au risque de décevoir les lecteurs, j'indique tout de suite que ce livre ne comporte pas quelques scènes hautes et qu'il n'est pas dans la veine des romans de votre jeune cadet Alena, également passé par Normal Sup, comme vous, mais dans un autre champ scientifique, l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors, ce qui frappe directement quand on aborde votre roman, c'est son titre, bien entendu, Les Solastalgiques. Le mot est peu connu, mais on l'entend de plus en plus souvent. Et je propose, vous allez me dire si je me trompe, une définition simple. La souffrance individuelle et collective qui se multiplie avec les destructions et transformations environnementales. Son concepteur est un philosophe australien, Glenn Albrecht. Et j'ai retrouvé la définition qu'il donne dans son livre au titre très explicite, publié au Lien qui libère en français en 2019. Le titre s'appelait « Les émotions de la Terre ». De nouveaux mots MOTS pour de nouveaux mots MAUX. Et voici ce que disait Albrecht. La solastalgie est la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire. Alors, au début de votre livre, Serge Auser, je ne sais pas si on dit Auser ou Auserm, qui est professeur de psychiatrie, c'est l'un des principaux personnages de votre roman, résume ce mal ainsi, ça c'est page 14, c'est avoir mal à la planète, c'est le planète blues, comme un clin d'œil au baby blues. Page 60, les jeunes lauréats de l'Institut de l'engagement qui discutent entre eux et découvrent le mot, l'un d'eux dit, c'est un beau mot, M-O-T, je le retiens. Et puis dans votre roman, le commissaire Tréville, le seul agrégé de philo commissaire de la police nationale, comme il aime à se présenter, considère que le mot solastalgie, et ça revient un peu au début de mon propos, a été construit, je cite, construit n'importe comment par un Australien qui se prétendait philosophe. Fermez les guillemets. Alors on va commencer par ce qui est une entorse totale aux règles, entre guillemets, de l'entretien. Trois questions, donc d'abord, pour ouvrir notre échange. Pour quelle raison avoir choisi un tel sujet ? Deuxièmement, pourquoi cette forme de roman, alors que vous êtes un auteur d'essais ou d'ouvrages testimoniaux sur vos différentes expériences? Et puis, troisième question, pourquoi avoir retenu ce terme, les solastalgiques, donc pour en faire le titre de votre roman? Allez-y, Martin.
Ok. Merci, je me lance. Pourquoi ce thème? Ben, je ne sais pas, ça me paraît tellement évident, quoi. On vit une période inouïe, exceptionnelle, inédite, hallucinante. Quoi. Nos générations vivantes, là, en ce moment, sont face probablement à un des plus grands phénomènes de l'humanité. Je vous prends juste un exemple et qui explique aussi mon raisonnement. On entend souvent dans le grand public l'expression « sixième extinction ». Moi, jusqu'à présent, je penserais que c'était un truc de Spielberg. Le mec avait fait le parc des dinosaures par souci marketing, avait imaginé la sixième extinction comme un film de science-fiction. Et là, je croise les chercheurs du CNRS
Le vrai CNRS, on va y revenir.
Et il m'explique qu'effectivement, ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport aux 5 autres extinctions des dernières centaines de millions d'années, dont celle des dinosaures, est un phénomène 100 fois plus rapide. Et donc je me dis, comment moi, qui suis, fait partie des gens instruits, ayant des pouvoirs de décision, j'ai cru penser que ce phénomène était un phénomène fantasmé marketing, alors que c'est une réalité pour les scientifiques. Je dis un mot, j'en profite, hein, en Europe, 80% de la masse des insectes qui a disparu en 3 décennies, c'est 50% des oiseaux, c'est en France, un arbre sur deux, la mort d'un arbre sur deux, quoi, c'est des choses extraordinairement importantes. Donc nous vivons cette époque-là, et nous vivons cette époque-là comme si ça n'allait pas se passer, comme si on verra peut-être après. Et donc moi, le raisonnement du livre, ça a été de me dire, mais qu'est-ce qui se passerait dans 50 ans quand effectivement un certain nombre des prévisions se seraient réalisées et qu'on serait là en disant, ah, putain, c'est con de ne pas avoir réagi un peu plus tôt, quoi. Si on avait su, on aurait fait autrement. Mmh. Et moi, je dis, mais en fait, on sait. Et donc, imaginons qu'on fasse autrement. Donc ça, et ça, je trouve que, effectivement, une fois qu'on rentre dans les sujets, qu'on regarde les chiffres, qu'on discute avec les uns et avec les autres, depuis que le livre est sorti, chaque jour, on est aujourd'hui, je ne sais pas quand vous nous écouterez, mais aujourd'hui, on est le jeudi 8 juin, il y avait deux choses hier, deux grands titres. Un, New York, qui ressemble là effectivement à un décor de film, couvert, intoxiqué par les fumées des incendies au Canada du début juin. Déjà, les incendies d'août posent des questions, mais les incendies de début juin qui descendent jusqu'à New York, c'est quand même fou dingue. Et deuxièmement, par l'annonce que l'Arctique est en train de disparaître. Dans une des plus grandes revues scientifiques, des chercheurs de plein de pays qui vous expliquent que, en fait, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Donc ça, c'est juste hier. Et je ne remonte pas à ce qui se disait avant-hier ou il y a 3 jours, etc. Donc, cette réalité existe. Alors, pourquoi le roman? Pourquoi le roman, justement? Parce que la réalité est trop décevante. Donc, décrire il y a deux côtés. Décrire la réalité ne permet pas, puisque nous n'avons pas eu les comportements qui permettent de prendre la mesure de ce hyper phénomène. Puis par ailleurs, faire un essai, il y a des essais très bons. Moi, je me suis nourri des essais pour en faire effectivement un roman qui permet d'aller plus loin que la réalité, d'aller plus loin de la réalité. Je dis, quand j'ai l'impression parfois d'être le Icare. C'est-à-dire que par la fiction, on peut s'approcher du soleil. On peut toucher au vrai parce qu'effectivement, on peut rentrer dans la tête des gens plus facilement. On peut leur faire plusieurs scénarios. Le livre est un débat entre personnes. Puis, alors là, je vais le dire sans sortir de mon fauteuil et de ma place, etc. Mais en fait, j'avais un petit fantasme de roman depuis l'adolescence à cause d'un livre que j'ai lu dans mon adolescence qui est Les Mandarins de Simone de Beauvoir.
D'accord. Qu'on retrouve dans le livre.
Hein. Ah oui. Je ne joue pas masqué. Mais j'explique un peu. Les Mandarins, je trouve que c'est un chef-d'œuvre de Simone de Beauvoir. De 1954, elle a eu le prix Goncourt d'ailleurs pour les mandarins, où elle met en scène les tempêtes de crâne dans les personnes engagées d'après-guerre et qui sont plutôt engagées pour l'utopie communiste de l'époque. Et avec ces conflits entre ceux qui disent il faut vivre notre engagement jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, comme on dirait aujourd'hui, non pas financièrement, mais quoi qu'il en coûte idéologiquement, ou etc. Puis celles et ceux qui disent, mais il y a le principe de réalité, etc. Et donc, il y a entre ces intellectuels un conflit romancé que j'avais depuis un certain temps envie de reproduire face aux enjeux du 21e siècle. Et les enjeux du 21e siècle, c'était pour moi les enjeux écologiques. Voilà. Donc, voilà pourquoi la fiction. Alors ensuite, pourquoi ce titre ? Alors effectivement, j'espère que mes personnages l'expliquent. Je trouve que le mot est puissant. Je trouve que le mot mérite de passer à la postérité. Je trouve que faire découvrir ce mot à des gens qui le ressentent intérieurement sans savoir mettre un mot dessus, c'est comme tout bon médecin, moi je suis un médecin rentré, tout bon médecin vous expliquera qu'une partie de la guérison, c'est de savoir mettre un mot sur une maladie. Et que le malade se sent presque mieux une fois qu'on lui a mis un mot sur sa maladie. Voilà. Donc la maladie dont on souffre aujourd'hui, qui peut se traduire par le no-kid, qui peut se traduire par toute une série d'angoisses, je pense que le mot qui l'englobe le mieux, c'est le mot solastalgie. Et effectivement, les solastalgiques, comme il y a les mandarins, comme il y a les misérables, caractérise, je pense, une catégorie de la population, notamment jeune, auquel j'avais envie de m'adresser.
Alors, c'est très clair. Alors, je rebondis sur vos derniers mots, Martin, notamment jeune, parce qu'on va voir que ce ne sont pas justement que des jeunes qui sont concernés. Alors, votre livre, c'est l'histoire. Il y a plein d'histoires, mais ce sont deux groupes qui se rencontrent aussi, un groupe de quinquas et sexagénaires qui s'appelle le G2104. Vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que ce chiffre, hein, de non pas 2104, mais on comprend mieux 2104. Et puis des jeunes de l'Institut de l'engagement. Alors on y reviendra parce que vous connaissez bien cette structure qui existe réellement. Hein. Mais je voudrais que vous nous présentiez quatre membres du groupe des plus âgés, hein, du G2104, Serge Auzer, donc le psychiatre, Claire Signoret, la magistrate, Youssef Karoui, le neurobiologiste, et Pierre, un haut fonctionnaire décalé, président de l'Institut de l'engagement, écologiste avant l'heure. Le général de Gaulle aurait parlé d'un carteron d'intellectuel pas en retraite. En dehors de Claire, encore que peut-être, hein, j'ai le sentiment qu'ils ont tous un peu de vous, peut-être que je me trompe, avec peut-être une proximité encore plus forte pour Pierre, comme par hasard, qui est celui des quatre qui n'a pas de patronyme, si je ne me suis pas trompé dans la lecture.
Effectivement, j'ai oublié de lui coller un patronyme à ce brave Pierre. Alors, on est partout, on est nulle part. Hein, justement, je n'ai pas fait de l'autofiction, je n'ai pas fait une autobiographie, je n'ai pas fait une autoglorification, et effectivement, j'ai essayé écrire un roman. C'est une sorte de jubilation, quand même. C'est quand même très amusant, justement, parce que moi qui vis dans des univers sacrément contraints, là tout d'un coup on vous dit, mais faites ce que vous voulez, donc mettez-vous où vous voulez, déjouez ce que vous voulez, jouez avec la réalité, la vérité, autant que vous voulez. Donc voilà, j'espère que les premiers lecteurs que je rencontre y retrouvent, et j'espère que cette jubilation est communicative, mais j'ai joué à cela. Puis ensuite, j'ai voulu positionner effectivement mes personnages comme un peu des personnages emblématiques de certaines catégories. Donc Serge Auzer, le psychiatre, c'est celui qui a fait ses armes au moment de l'explosion du sida.
Du sida, en effet.
40 ans exactement, d'ailleurs. Mmh. Hein, et qui se trouve le médecin désarmé face à des malades de son âge qui sont décimés par une maladie émergente qui surgit, on ne sait toujours pas d'ailleurs d'où elle a surgi, qui semble presque constamment mortel à l'époque, et pour lequel la question qui se pose, c'est que peut apporter la psychiatrie face à une maladie qui est a priori aux mains de, à l'époque, virologue, malade, médecin infectieux, assez impuissant face à cela et à la psychiatrie. Et donc je reprends, moi ça m'intéressait de, est-ce que la psychiatrie a quelque chose à dire face à la solastalgie, à l'éco-anxiété, ou est-ce que c'est les ingénieurs agronomes, etc. Donc il était assez emblématique de cela. Claire Signoret, la magistrate, par ailleurs dans une situation de patiente un peu compliquée, Claire Signoret, elle incarne pour moi la question de où est le droit. C'est la juge rigoureuse, engagée mais rigoureuse.
Mais c'est Créon et Antigone quelque part. Elle est les deux. c'est Créon qui deviendrait Antigone.
Exactement. Ouais. Et il faut l'imaginer avec sur sa table de nuit, non pas des romans, mais le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, les petits livres rouges, etc., etc. Et son débat, mais c'est finalement, est-ce que le droit aujourd'hui ne vient pas protéger un désordre plutôt que de donner l'ordre? Elle est d'ailleurs sermonnée par une ministre de l'Intérieur qui fait un discours d'une très grande violence sur les éco-terroristes. Discours pour lequel ce livre a la particularité d'avoir déjà été plagié. Je ne sais pas si vous avez noté. J'ai écrit ce discours d'une ministre de l'Intérieur fustigeant les éco-terroristes, etc. Et l'encre à peine sèche, il y avait un ministre de l'Intérieur, dans la réalité, qui tenait au mot près à peu près les mêmes discours. Donc, elle incarne cette question très d'actualité. Si je continue dans les personnages, vous en avez oublié, cher ami.
Oui.
Ah oui, pardon, elle est dans l'autre génération. Je disais, d'accord, on reste chez les...
Chez les plus vieux. Dans le G2104, si vous parlez de Raphaël, c'est un personnage très intéressant, mais je comptais y venir à Raphaël. Oui. Non, le troisième, c'est Youssef Karoui, cet homme étonnant qui est un vrai blagueur, qui partage sa vie entre Montréal et la France, qui a des petites souris sur lesquelles il leur fait faire. C'est une sorte de docteur Mabuse. J'exagère, mais donc lui, il est passionnant. C'est le neurobiologiste. Alors vous avez fait des études de neurobiologie.
Absolument. Et je peux vous livrer un secret que vous ne répéterez pas sur Youssef Karoui.
Allez-y.
Mais vous engagez à ne pas le répéter. Youssef Karoui, c'est le seul qui existe vraiment. Non pas dans la réalité, mais parce que c'est un personnage d'un autre roman.
Ah ouais.
Ma femme, Florence,
oui.
Qui écrit des Florence Soiville.
Des biographies, entre autres, oui.
Oui, et des romans qui partent de la neurobiologie. A fait exister Youssef Karoui.
Ah, d'accord.
Inspiré par un personnage, lui, réel, qui est effectivement fait de la neurobiologie entre Montréal et Paris.
D'accord.
Et donc, ça m'a amusé ce clin d'œil.
Alors, c'était très pratique.
De reprendre, très d'extraire mon Youssef Karoui, son Youssef Karoui, de le remettre, ça collait parfaitement bien. Alors, le Youssef Karoui, il est rigolo parce que il pense avoir trouvé des tas de remèdes en allant modifier les gènes de ses souris. Et on vient lui parler de la solastalgie, il me dit, aucun problème. Je vais prendre mes souris, je vais les modifier génétiquement et je vais guérir l'humanité. Et alors là aussi, je trouvais que le clin d'œil par rapport à le scientisme est-il la bonne réponse à la catastrophe que nous vivons m'intéressait. Et puis il y a Pierre.
Pierre.
Je ne sais rien en dire de Pierre.
alors on avance. On y reviendra. Bon. Une des particularités de ces membres, bon, je dis, c'est pourquoi 2104, c'est le 21 avril 2002, c'est la qualification entre guillemets de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, il y a 20 ans. Et d'une certaine façon, pour eux, c'est une forme de prise de conscience enfin, importante. Quelque part, la politique les percute à ce moment-là. Bon. Mais ils ont...
C'est la prise de conscience de quelque chose de très important. C'est que cette génération a pensé vivre dans une sorte de période de progrès irréversible des droits de l'homme, de la démocratie, de la protection sociale, du progrès économique, des bienfaits de la technologie, etc. Et pensait effectivement, non pas la fin de l'histoire, mais une nouvelle phase de l'histoire crantant des progrès à nouveau irréversibles, et s'aperçoit que toutes leurs bases peuvent revenir en arrière. Et donc, notamment, la lutte contre les menaces sur les équilibres démocratiques d'après-guerre, etc., remis en cause. C'est une génération qui pensait qu'une fois qu'on a supprimé la peine de mort, on n'y revient pas. Et voit arriver au deuxième tour quelqu'un qui défend le rétablissement de la peine de mort.
Alors, il se trouve que pour l'histoire, ce sont des karatékas émérites, hein, si je puis dire. Bon. Mais ils ont aussi un autre élément en commun. Leurs grands-parents ou leurs parents ont été engagés, quand ils étaient jeunes, pour leurs parents, dans la résistance. Alors, on connaît votre histoire, Martin Hirsch, c'est aussi la vôtre. Et à plusieurs reprises, et on y reviendra, y compris par rapport à votre conclusion, par rapport à l'épilogue, il y a cette comparaison entre la situation actuelle et l'engagement contre l'occupant entre 40 et 44. Est-ce que vous pensez que cette... analogie, les structuralistes parleraient d'une homologie structurale fonctionne.
Alors, en tout cas, je pense qu'elle est importante à être débattue, poussée jusqu'au bout. Alors, en quoi tout le monde dit que dans une période de démocratique, seules les armes démocratiques sont légitimes et que les autres ne le sont pas. Quand arrive Hitler par des voies démocratiques, quand arrive le régime de Vichy par un parlement qui donne les pleins pouvoirs,
c'est vrai,
il y a ceux qui et il y a Bordeaux, quoi. Il y a ceux qui deviennent résistants. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas dû agir plus tôt? Est-ce que le moment où on est rentré en clandestinité, en résistance, dans le maquis, n'arrive pas à un moment trop tard? Donc ça m'intéressait par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'état de droit est au service du bien commun. Si l'état de droit est construit et que, dans le même temps, le bien commun se détruit, le bien commun, hein, c'est la pureté de l'air, la température, la glace dans l'Arctique, les glaciers...
Ce qu'on appelle avec Giraud les communs, globalement, maintenant. La philosophie des communs. Voilà. Hein,
oui. Exactement. Donc, si l'état de droit ne sert pas le commun... cette question de est-ce que je rentre en résistance se pose. Ah, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Alors, et c'était intéressant de le poser de manière romanesque. Et effectivement, mon désir, c'est que cet aller-retour et que le romanesque réinterroge nos comportements actuels.
Alors, on reviendra sur la dimension en particulier philosophique, éthique, que pose d'ailleurs cette problématique-là. Mais je reste dans le roman, un peu dans les premiers temps de votre roman, il y a une scène que j'ai qualifiée en la lisant de surréaliste. Elle se déroule dans un compartiment, entre guillemets, du TGV entre Bordeaux et Paris. Alors, j'espère que vous aurez l'occasion de venir à Bordeaux rapidement, cher Martin Hirsch. Mais il y a belle lurette qu'avec la LGV, justement, il n'y a plus de compartiment dans le TGV. Moi qui ai connu le drapeau, qui mettait 5 heures, là, il y avait des vrais compartiments, avec même un magnifique wagon-restaurant. Et dans ces compartiments, se nouaient et se dénouaient parfois des complots, voire de belles histoires d'amour. Mais bon, là, c'est un peu plus public, maintenant, les rames du TGV. Alors, vous décrivez entre autres, l'ouverture d'un service hospitalier au sein de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, hein, plus connu sous les initiales APHP, dont on ne peut pas dire que vous ne soyez pas un bon témoin, après l'avoir dirigé pendant 9 ans. Et je cite juste la fin de l'échange, je vous lis page 32, citation, « Il ne fallait plus que convaincre le directeur de l'APHP, j'en fais mon affaire, c'est un cousin, dit Serge. » Bon, alors, j'ajoute que au cours de ce trajet ferroviaire, c'est là qu'apparaît la jeune et future chef de clinique, Raphaël, personnage fictionnel, dûment inspiré, comprend-on, quand on lit vos remerciements, de la docteure Raphaël Hirsch, que vous remerciez à la toute fin de votre ouvrage. Alors, rassurez-nous quand même, l'ouverture d'un service hospitalier au sein de la PHP, faut pas simplement être le cousin du DG, je pense. Et puis ensuite, dites-nous qui est quand même Raphaël Hirsch, dont j'ai vu qu'elle était médecin psychiatre à l'hôpital de la Conception à assistance publique, hôpital de Marseille. Alors, allez-y.
Oui, donc moi j'avais mon vieux psychiatre, si je puis dire, celui de ma génération, et les besoins romanesques nécessitaient une jeune psychiatre. Voilà. Ouais, ouais. Et là, pourquoi j'avais besoin d'une jeune psychiatre, on le verra, parce que j'avais besoin de ponts entre générations.
Exactement.
Et je voulais que ces ponts entre générations soient incarnés. Et donc j'avais besoin d'une jeune psychiatre. Alors comme je ne suis pas un jeune psychiatre moi-même, j'ai essayé de m'inspirer d'une jeune psychiatre. J'en connaissais une, et comme j'avais besoin de moyens mnémotechniques pour ne pas me perdre dans les fils de mes personnages, je lui ai donné son vrai prénom. Et puis à la fin, je me suis dit, mais zut, mais de quel droit je peux l'embringuer là-dedans? Donc j'ai appelé le docteur Raphaël Hirsch, avec lequel j'ai des liens de parenté, puisque c'est ma fille, et je lui ai dit, Raphaël, je suis désolé, j'ai fait une grosse bêtise, mais ça se rattrape très vite. tu as le nom d'un personnage et en plus ça te ressemble un peu, donc on pourrait te reconnaître. Je vais l'enlever, mais regarde quand même. Et donc j'envoie le fichier à Raphaël, qui me dit, bah, écoute, moi, ça ne me choque pas. Et puis, ma génération se retrouve là-dedans, etc. etc. Donc, ouais. Si tu veux laisser le prénom, laisse le prénom. Et donc, j'ai laissé le prénom avec son autorisation et j'ai à la remercier. Et alors, effectivement, Raphaël, elle joue un rôle, cette fois, fictionnel important, ouais. Parce que les gens... Alors, ce qui est assez la réalité... les profs de médecine, ils ont besoin des jeunes pour que ça tourne. Ils peuvent avoir les idées, ils peuvent convaincre les autorités, mais ensuite, il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent tourner le truc. Donc, c'est la jeune psychiatre qui fait tourner la chose. Et elle est facilement l'interlocutrice des jeunes solastalgiques, parce que c'est la même génération. Ils se parlent, elle est sensible à leurs problèmes. Va faire l'un des piliers, d'un des ponts, d'une des passerelles entre les deux générations, et ça va être un élément structurant du livre, que au lieu qu'il y ait la guerre des générations sur le climat, il y ait l'alliance des générations.
Alors justement, la génération la plus jeune, hein, qui sont les jeunes lauréats de l'Institut de l'engagement. Alors, on va pas décrire ce que c'est que l'Institut de l'engagement. Le site internet de l'Institut est fort bien fait. J'invite les lecteurs d'ailleurs à prendre connaissance de cette structure, qui est une structure associative, hein, dont vous avez été à l'origine, et je crois que vous présidez toujours, hein, je crois, il me semble. Hein. Oui. Mais sont des jeunes, ils sont soit brillants, soit engagés à fond dans de nobles causes et activités, soit pressés d'agir. Et souvent, en même temps, ils auraient pu être peut-être macronistes en 2016, mais en 2023, ils sont plus proches de d'Extinction Rébellion et de dernière rénovation. Ce sont ce qu'on appelle des geeks, c'est-à-dire des millennials, hein, véritablement de cette génération qui est extrêmement à l'aise avec le code informatique, comme moi je pouvais l'être avec la plume sergent-major. Enfin, je dis moi parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc je pense que vous n'avez même pas connu la plume sergent-major. Et il y a une très belle ouverture sur eux. Ils sont à Autran, ils vont passer entre eux le pacte d'Autran. c'est dans le Vercors. Bon, on sent là qu'il y a du vécu par rapport à ce que vous faites. J'ai vu à la fin que vous remerciez Jean Jouzel, le grand climatologue, pour une conférence qu'il a prononcée devant l'Institut de l'engagement. C'était important d'avoir ce profil très particulier de jeunes gens, futurs activistes.
Oui, d'abord, parce qu'ils ont contribué à m'ouvrir les yeux.
Ah oui.
Sur, à la fois sur les problématiques climatiques, sur les problématiques d'engagement. On leur transmet l'engagement, mais ils nous transmettent autant que chez eux, j'ai vraiment rencontré la solastalgie. Hein, je les ai vus pleurer quand on parlait de cela, mais éclater en sanglots. Et donc, ça m'a pris à la gorge. Et donc, là aussi, je me suis dit que la meilleure fiction était celle qui se construisait sur
la réalité.
Sur la réalité méconnue. Parce qu'ils ont comme autre caractéristique d'être des gens assez invisibles dans la société, ces jeunes-là, puisque c'est des jeunes, nous, qu'on aide alors que la société ne les a pas aidés. C'est des jeunes qui sont allés s'engager, qui n'ont pas fait les parcours honorifiques habituels, qui sont pourtant bourrés de talent et bourrés de conviction. Et voilà. Et donc, j'aimerais qu'ils jouent un rôle central dans la société. Et donc, autant leur faire jouer un rôle central dans le roman.
Alors, vous connaissez peut-être la distinction qu'opère Sartre quand il explique pourquoi il a écrit Huis clos entre les soucis profonds et les causes occasionnelles. Là, il y a dans votre roman, il y a une cause occasionnelle. Alors, on va pas détailler parce que ça fait partie du roman. C'est le suicide d'Anna. Alors, son prénom c'est H-A-2-N-A. Ses parents Benjamin et Rachel, qui sont d'ailleurs qui appartiennent au groupe des amis du 2104, ont donné ce prénom en référence à Anna Arendt. Hein. Bon, il se trouve que elle se suicide. Alors, je l'évoque parce que c'est dans la quatrième de couverture. Donc, je ne divulgue rien. Est-ce que l'on peut dire que ce suicide, c'est un petit peu à l'identique de celui de Jan Palar à Prague en janvier 69 ou du jeune Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010, pardon. C'est un élément fort, oui.
C'est un acte individuel à portée universelle.
D'accord.
Le chapitre qui en parle,
ouais,
l'évoque comme cela. La statue de Marianne, place de la République, qui est aujourd'hui assez régulièrement grimée et rebaptisée Anna. Le gros ballon rouge de la CGT qu'on voit souvent devient le ballon de la planète en difficulté au bras de la statue Anna. Elle a un petit effet Greta Thunberg aussi, cette jeune Anna. Et effectivement, j'ai beaucoup pensé au printemps arabe.
D'accord, plutôt au printemps. Au déclenchement du printemps arabe. D'accord, voilà. Dans le livre, toujours un peu au début, Pierre a un ami qui s'appelle Pierre Alain, qui est un guide de haute montagne très expérimenté. Alors, il y a de beaux passages sur la situation des Alpes, et en particulier les effets du dérèglement climatique, du réchauffement climatique sur les glaciers des Alpes. Et puis, page 69, j'ai noté cette réflexion de Pierre Alain à Pierre. « J'en finis par me dire que l'espèce humaine ne mérite pas la planète. Elle a un égo trop destructeur. » C'est extrêmement sombre comme commentaire, ça.
Où c'est cruellement
lucide,
cruel, c'est lucide, oui, cruellement lucide. Ça fait écho aussi à toute une série de débats que je remets quelque part dans le livre, d'interrogations sur finalement est-ce que il y a une particularité dans le cerveau humain, le striatum, je ne sais pas quelle structure, qui conduirait à du toujours plus, toujours mieux que les autres, et qui aurait un effet consommateur d'énergie, et qui ferait qu'on serait dans le dépassement, non pas au bon sens du terme, mais dans le dépassement des limites que la planète nous a offertes. Donc, effectivement, un guide de haute montagne, vous savez, ses caractéristiques, c'est qu'ils savent dire en trois mots ce que nous, on met 8 minutes à dire.
Oui. alors, je reviens encore à la dimension de la clandestinité. Après le suicide d'Anna, Pierre convoque ses amis. Hein, il dit, à partir de ce soir, le G2104 devient un groupe secret, déterminé à user de tous les moyens pour éviter la catastrophe climatique, à ne pas laisser sans suite le testament d'Anna et à ne pas être, l'expression est forte, des climato-collabos. Et puis, vous avez un épilogue assez étonnant où vous mettez en scène un dialogue avec votre éditeur, Manuel Carcassonne, que vous remerciez d'ailleurs d'avoir accepté de se prêter à ce jeu. Et il y a un échange où là, on est dans la réalité. Vous dites, page 366, j'ai même peur d'avoir atteint un point Godwin. Vous savez, la référence tout de suite dans une discussion, c'est bien connu, au nazisme et à Hitler. Et en substance, vous dites, l'irrecevabilité du réchauffement climatique de celle de la Shoah est identique à celle qu'il y a eu au moment de la Shoah, telle que l'ont vécu les rescapés des camps de la mort de 1945. On sait ce qui s'est passé. Hein. Primo Levi publie « Si c'est un homme » chez Del Duca en 46-47. Ça fait personne n'achète le livre, il faut attendre 58-59 pour que Einaudi reprenne si c'est un homme et que ça devienne le livre référence que l'on connaît. Donc, encore une fois, là, vous, dans votre réflexion, vous dites, mais est-ce que je vais pas trop loin en quelque sorte dans la comparaison, c'est ça?
Oui, alors, comparaison est probablement excessif. Mais effectivement, la Shoah est inconcevable, elle était inconcevable avant, inconcevable pendant, et même après, alors qu'elle a eu lieu. Mmh. Quand je dis inconcevable, effectivement, il y a Primo Levi, il y a les rescapés au Lutetia, qui n'arrivent même pas à en parler en se disant « mais personne ne va concevoir que c'est de la réalité ». Et l'ampleur des conséquences sur la destruction des planètes a aussi ce côté inconcevable. Et ce que j'essaye de mettre en scène dans ce dialogue, c'est de se dire, après tout, comme on a déjà défini ce qu'est l'inconcevable, on n'est même pas armé pour voir une deuxième chose inconcevable. Mais l'autre élément de ce dialogue, qui est vraiment un fil rouge de tout le livre et toute ma réflexion, c'est où est la raison et où est la déraison. A priori, tous ces types de ces deux générations, garçons et filles, qui se mettent à l'action clandestine, qui essayent de saboter ceux qui sabotent le monde, et qui peuvent faire écho aux gens qui peinturlurent les musées, etc., etc., sont considérés comme déraisonnables, quoi. Ils sont un peu siphonnés pour sortir des clous à ce point-là. Mais effectivement, les autres, je ne sais pas s'ils sortent des clous, mais s'ils enfoncent des clous sur le cercueil de la Terre, sont-ils raisonnables? Donc, où est la raison et où est la déraison? Et ça, c'est vraiment, s'il y avait une interrogation qui traverse tout le livre, c'est celle-là. La déraison n'est peut-être pas là où vous pensez et la raison n'est peut-être pas là où vous la situez.
Alors, on voit au milieu du livre que il y a regroupement d'un côté du G2104, de l'autre des stèles nostalgiques, et qui crée donc dans une dimension que Serge explique à Raphaël, non pas illégale mais supralégale, il crée le CNRS 2104, la conspiration nostalgique des rebelles solastalgiques. Voilà, bon, donc 2104. Alors, vos solastalgiques, je pensais que, sans faire un mauvais jeu de mots, vous pouviez les appeler aussi Solastalgix, ou Jix, parce qu'effectivement, on l'a dit, ce sont des passionnés du code, voilà, avec un personnage qui va jouer aussi un rôle important, j'y viendrai, qui est Sacha. Alors, ils s'installent dans un hameau qui s'appelle Grainville, en Normandie. Alors, il se trouve que c'est une sorte de phalanstère qui rassemble quelques figures intellectuelles à une époque du fin 19e, début 20e. Ils sont tous Dreyfusards. Vous citez Pauline Kergomar, qui est quand même la cousine germaine d'Élisée Reclus. Le Libournais Théodore Steg, qui a été président du Conseil, j'ai regardé, entre décembre 1930 et janvier 31. Donc il a pas. Bon, mais c'est quand même le fils de Jules Steg, hein, qui est quand même une grande figure, défenseur de l'école laïque, ou aussi député de Libourne. Ils ont en commun d'être très souvent protestants. Hein, voilà. Alors j'ai regardé Grainville-sur-Odon, ça existe, c'est à 10 km de Caen. Il y a un autre Grainville qui a fusionné maintenant dans l'Eure. Ça existait véritablement ce hameau phalanstère là qui rassemblait des figures du monde intellectuel
ou... Absolument.
Ah oui,
absolument. Ce hameau existait, ce hameau existe encore. Il est aucun des deux Grainville que vous avez cité.
D'accord.
Et il a un autre nom.
Ah oui.
Je vais effectivement requalifier pour le continuer à le protéger parce qu'il essaye de vivre
d'accord.
toujours dans le même esprit. Et effectivement, vous citiez Pauline Kergomar,
oui, l'inventeur de la maternelle,
de l'école maternelle. Mmh. Voilà. Ce combat de Réfusard, ce combat pro-Jules Ferry, ce combat pour la laïcité, pour l'instruction, etc., etc. Et je trouvais ça intéressant. Là aussi, je voulais leur mettre des bons parrains, des bonnes ondes, des bons inspirateurs. Donc, il y a les résistants, il y a
ces penseurs,
extraordinaires ces penseurs de la fin du 19e siècle.
Ouais, ouais, d'accord. Alors, votre livre est truffé d'éléments qui donnent une réalité, une vraie chair à votre récit, puisque on arrive à Sacha. Alors Sacha, c'est le frère aîné de Anna. Alors lui, il est brillantissime, normalien. Il a été lauréat, dites-vous, dans le livre d'un prix international qui existe bel et bien, qui est le prix Gödel. Depuis 93, il y a que deux Français qui l'ont eu. Hein, un Bordelais qui s'appelle Sénisergue, hein, en 2002, puis Antoine Joux, qui est plus connu en 2013, qui est un grand spécialiste du cryptage. Le prix Gödel, il est trusté par les chercheurs israéliens et américains. Hein, c'est impressionnant. Là, on arrive à une question essentielle. Est-ce que vous pensez que la technique, qui par ailleurs, moi j'ai été un des derniers assistants de Jacques Ellul, donc la technique qui quelque part est considérée comme peut-être responsable de la situation dans laquelle est arrivée la planète, hein, c'est la société technicienne. Est-ce que vous pensez que la technique peut servir à lutter contre ceux qui sont justement considérés comme responsables du réchauffement climatique?
Alors,
parce que c'est leur thèse, c'est leur démarche, c'est bien ça. Ils utilisent la technique assez fin.
La démarche est que oui, ils font du piratage informatique.
Oui.
Ils se mettent à dérégler les systèmes et en étant de manière complètement rationnelle les grandes sources d'émissions et regardent comment ils dérèglent. Alors, moi j'ai passé énormément de temps dans l'écriture de ce livre avec soit des hackers repentis, soit des profs de cybersécurité. Pour comprendre. Et là aussi, grosso modo, rien n'est invulnérable.
D'accord. Rien.
rien n'est invulnérable. Il y a le petit producteur de microprocesseurs de Taïwan, là, celui qui produit les 80% de microprocesseurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué, parce qu'on a dit quand même, celui-là, il était particulièrement coriace. Mais vous prenez tout le reste. Tout le reste, ça se dérègle. On voit ça avec les demandes de rançon dans les hôpitaux. Moi, j'ai été confronté à cela. Mais rien n'est invulnérable. Et alors, quand en plus, ils sont aussi talentueux que l'alliance entre le super normalien prix Gödel et le petit jeune est autodidacte
Mehdi,
et qui ressemble quoi. Et Mehdi ressemble au portrait robot que m'ont fait les hackers repentis de ce qui était le profil des hackers, hein, qui est un gamin qui a commencé par le jeu, qui s'est pris au jeu, si je puis dire, et a essayé de comprendre comment on pouvait gagner plus souvent, etc., etc., qui a compris et qui est devenu capable de rentrer dans les entrailles des jeux informatiques. Et à partir de là, rentrant dans ces entrailles-là, il est rentré dans les entrailles de tout ce qu'il voulait. Pour lui, les journées portes ouvertes à l'Élysée, c'est tous les jours.
Dans votre livre, il y a aussi une dimension, il y a des passages qui peuvent être vraiment des passages, j'allais dire, de réflexion philosophique. Hein. J'ai noté une scène tout à fait intéressante. C'est Pierre et Raphaël qui visitent une petite chapelle à côté de Grainville où il y a une fresque qui représente Saint Julien l'Hospitalier. Alors, je laisse à ceux qui nous écoutent regarder qui a été Saint Julien l'Hospitalier, mais ça renvoie à la prédestination, mais aussi l'échange à la liberté de choix et aux contraintes. Hein. Les contraintes qui sont librement...
Et j'ai plus de son.
Ah, vous avez plus de son ?
J'ai une coupe... C'est bon, c'est revenu. J'ai une coupure de 30 secondes.
Ah bon, alors... Donc...
Ça renvoie à l'échange.
Alors, Ça renvoie à l'échange entre... On va reprendre. Dans votre livre... C'est parce que ça sera modifié au montage. 1, 2, 3. Dans votre livre, il y a des réflexions philosophiques. Il y a des passages qui sont vraiment de l'ordre de la philosophie. Et je fais référence à un échange entre Raphaël et Pierre qui vont visiter une petite chapelle à côté de Grainville où il y a une fresque de Saint Julien l'Hospitalier. Et là, ça évoque la dimension de la prédestination. En particulier, vous évoquez cela, où la liberté de choix et les contraintes librement consenties ou, comme on dirait dans un vocabulaire habermasien, incorporé en quelque sorte. Hein. Et Pierre dit à Raphaël, c'est page 209, on n'échappe pas à son destin. On a beau partir le plus loin possible, changer de vie, transformer son apparence, fuir les siens, on est toujours rattrapé par le fatum. On est condamné à accomplir sa vie, on peut utiliser toutes les ruses, des plus grossières aux plus sophistiquées, on ne peut pas désobéir à l'oracle. L'oracle est plus fort que vous. Ces prophéties sont auto-réalisatrices. Alors là, je ne dirais pas que le livre m'est tombé des mains, parce qu'il reste collé aux mains votre ouvrage, tellement on est pris dedans. Mais enfin, quand même, le Martin Hirsch qu'on connaît, médecin, neurobiologiste, normalien, énarque, conseiller d'État, secrétaire général, adjoint du Conseil d'État, ancien responsable d'une des grandes associations caritatives, Emmaüs, ancien ministre, haut fonctionnaire, vous avez quand même dirigé plus de 100 000 personnes à la PHP pendant 9 ans, ce qui est un record depuis 85. Vous êtes par essence rationaliste et quelque part, on a l'impression d'avoir une interprétation qui relève davantage de la mythologie grecque que de la théorie du libre arbitre.
Mais c'est au contraire de l'ultra rationalisme de croire à la vocation.
On est dans un dialogue rabbinique, là. On est dans un dialogue rabbinique.
Et par ailleurs, la mythologie ne repose pas sur un fantasme. La mythologie est une construction humaine elle-même. Est une construction humaine. Et si les grands mythes traversent les générations, je ne sais pas s'ils résisteront au réchauffement climatique, mais les grands mythes traversent... Oh, je peux faire juste une toute petite parenthèse.
Allez-y, Martin, allez-y.
Ouais. Non, mais dans Traverse les générations, il y a un autre livre qui m'a beaucoup frappé, dont je me suis inspiré, qui est le livre, et c'est pour ça que j'ai appelé Grainville le petit village, le livre de Jean-Baptiste de Grainville, qui a un peu plus de 2 siècles, qui s'appelle Le dernier homme. Et c'est assez drôle parce que ce livre, qui était connu au début du 19e, complètement tombé aux oubliettes. Moi, j'y suis tombé aussi par hasard. Vous allez voir, par hasard. En fait, je cherchais le premier homme de Camus.
Ah oui.
Et sur le moteur de recherche, je me gourre. Il y a un truc. Je me dis, ah oui, le bouquin de Camus, c'est le dernier homme. Je mets le dernier homme et je tombe pas sur Camus, je tombe sur Grainville. Et moi, je suis un garçon curieux. Et donc, là aussi, quand le hasard me conduit quelque part, non pas, je me dis, donnons sa chance au hasard. Donc le hasard me met sur le dernier homme, je vais chercher le bouquin, je le regarde, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est au début du 19e siècle, donc un livre de mythologie qui explique que Dieu a choisi quelqu'un pour dire, ben voilà, Adam a fait tellement de conneries, il y a eu tellement de trucs, on va éteindre l'espèce humaine. Regarde dans quel état ils ont mis la planète. On va éteindre l'espèce humaine, mais il reste un type qui a la capacité de se reproduire.
C'est Noé.
Et qui se demande si...
C'est Noé en quelque sorte, quoi.
Et voilà, c'est ça. Les mythes ont tous une base scientifique et rationnelle, sinon ils disparaîtraient. Un mythe pour qu'il reste plus d'un siècle, donc a fortiori quand il reste un millénaire, c'est qu'il vient renvoyer une réalité. Voilà. Donc, le mythe d'Oedipe ou le mythe de Saint-Julien, qui sont un peu le même, on verra, mérite d'être là.
Voilà. Alors, on avance, on rentre dans la phase, j'allais dire, active. Hein, premier cas de piratage, il rentre dans le G20. Hein, voilà, donc ça démarre fort. Et puis alors ensuite, il y a un passage qui, moi, qui m'a fait beaucoup rire. Alors, je ne sais pas si l'actuel secrétaire général de l'Élysée, dont nul n'ignore désormais les relations, les liens familiaux avec le géant mondial de la croisière et du transport maritime MSC, va apprécier s'il lit ce passage. Mais enfin, toujours est-il que le CNRS 2104 décide de pirater, tenez-vous bien, c'est Winston qui est un grand fan de Churchill, parce que tout le monde a pris un pseudo, hein, qui explique qu'il existe 94 paquebots de croisière au monde, que à eux seuls, ces 94 paquebots de croisière sont des espèces de HLM de luxe flottant, hein, à Bordeaux, on en voit régulièrement arriver, bon, dégagent, émettent 10 fois plus d'oxyde de soufre que 250 millions de voitures. Bon, alors donc, quelque part, c'est tout à fait justifié de dérégler leur système de réservation de cabine et de faire en quelque sorte sauter la banque. Bon, alors vous avez évoqué tout à l'heure les rançons logicielles, hein, comme on dit, les ransomware. On a vu les effets sur des hôpitaux en particulier. Sans être provocateur, mais ça paraît étonnant que ça soit pas plus développé, ces actions que d'autres qualifieraient d'éco-terrorisme. Ça semble plutôt facile.
Oui, alors c'est pas si facile que ça. Hein. Le roman permet d'aller un peu plus vite que la réalité, mais comme je le disais tout à l'heure, ça n'est, je crois que rien n'est invulnérable. Rien n'est impossible. Mes personnages, ils cherchent à avoir le plus gros impact sans Kalachnikov, si je puis dire. Leur limite, ils vont pas toucher au Kalachnikov. Le plus gros impact passe par là. Mais derrière, si je rebondis sur les croisières, la réflexion des personnages et qui vient croiser celle de l'auteur, c'est finalement, si on se décidait véritablement à se contraindre à respecter les prescriptions du docteur Gieck. Le docteur Gieck nous dit moins 5% d'émissions par an, bah, vraiment comme une prescription. Il y a une ordonnance qui dit il faut faire ça. Est-ce que c'est renoncer à des choses vitales, majeures, etc. Et il rappelle des choses que moi-même j'ai découvertes et que je suis content de retransmettre au lecteur. Trois quarts des trajets en voiture sont des trajets de moins d'un quart d'heure qu'on peut faire à pied ou en vélo. Rien que d'y renoncer, formidable. Se dire que pendant quelques années, tant qu'il n'y aura pas des voitures électriques sans émission d'effet de serre complète, on roule à 100 et pas à 130, et que ça économise 20% d'émissions, etc., que on ne sort pas les bateaux de croisière. Alors, si éventuellement un jour ils sont éoliens, on peut les ressortir, mais tant qu'ils ne sont pas éoliens ou électriques ou à hydrogène, ou je sais quoi. Et il y a une phase de transition. Autant la fin du monde, quoi, la disparition des glaciers est irréversible, c'est assez intéressant de regarder ce que disent les scientifiques là-dessus. Moi, je leur ai posé la question. Mettons qu'on aille jusqu'au bout en 2100, puis là on s'arrête d'émettre, combien de temps il faut pour que ça revienne à l'état normal? Mais des très longs milliers d'années.
C'est ce que vous dites.
Donc il y a un petit côté irréversible. En revanche, se dire, si on croit au progrès technique, si on ne croit pas au progrès technique, raison de plus, si on croit au progrès technique, si on croit qu'effectivement, à un moment donné, l'énergie de la fission ou de la fusion, l'hydrogène, les énergies renouvelables, etc., vont nous permettre de pouvoir continuer à consommer de l'énergie sans produire d'émissions. La certitude, c'est que ça arrivera trop tard par rapport au compte à rebours du GIEC ou de l'horloge du désastre. Ça arrivera trop tard. Mais ça peut arriver un jour. Si la période entre maintenant et le moment où ça arrive, on se serre la ceinture énergétique, Encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Il hein. n'y a pas mort d'homme, ah, effectivement. Il y a moins de croisières. Il y a Jean Covici qui dit beaucoup moins de vols d'avion. Il y a un certain nombre de gens qui disent la voiture que pour les trajets importants et de grande distance, etc., etc. Avec ça, on s'en sort.
Alors, on ne va pas évidemment dévoiler l'intrigue, y compris la fin de votre roman, parce que là, on est à la fois dans une dimension qui est à la fois un polar, un livre de qui n'est malheureusement pas de science-fiction, hein, qui est aussi un documentaire, un reportage. Mais enfin bon, puisqu'il a été question du commissaire Tréville et qu'il en est question dans la route quatrième de couverture, il joue un rôle important dans la résolution de l'affaire, à la mesure de son statut assez unique, hein, d'agrégé de philosophie, ancien de Normale Sup, devenu commissaire de police. Donc là, c'est tout à fait passionnant. Mais je voudrais terminer et revenir à cette maladie nouvelle, la solastalgie. Il n'y a pas de service hospitalier qui a été ouvert, si j'ai bien compris, encore dans le système hospitalier français sur cette maladie, si vous allez nous dire. Et puis, quelque part, la question se pose aussi du soin à cette maladie. Parce que dans votre livre, dans un des premiers échanges, quand Claire reçoit chez elle Serge qui rentre de Bordeaux et Youssef et pas Pierre parce qu'il est retenu justement en Autran. Il est évoqué cette maladie et Claire dit mais il ne faut pas les soigner. Au contraire, c'est eux qui nous alertent. Alors, quelque part, les soigner, c'est cela nostalgique, ça serait, comme on dit, soigner non pas la cause, mais les conséquences. C'est-à-dire laisser la planète se réchauffer et s'occuper de ces personnes malades. Alors, pourquoi il n'y a pas...
Ça serait comme donner l'hydrochlorique.
L'hydrochlorocine.
Oui, exactement. J'avais même pas prononcé l'hydrochloroquine pour se débarrasser d'un virus. Quoi.
Exactement, par exemple. Par exemple, oui.
Tout ça est fortuit.
Alors donc, comment vous expliquez qu'il n'y a pas de service? Bon, vous allez peut-être vérifier si votre successeur, Nicolas Revel, à la PHP, un cousin qui est psychiatre. Mais vous lui poserez la question à Nicolas Revel. Mais alors, pourquoi il n'y a pas de service?
Alors, parce que la solastalgie n'est pas une maladie psychiatrique.
Reconnue dans le fameux DMS-5, là.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
D'accord.
Donc, là aussi, j'ai parlé pas mal avec, avec des psychiatres. Les psychiatres voient beaucoup de souffrances de jeunes, beaucoup de souffrances déclenchées par le climat, mais dans des services plutôt généralistes. Eux parlent du symptôme d'éco-anxiété, etc. La solastalgie est un concept philosophique, un concept qui décrit un état d'esprit, qui décrit, etc., mais qui n'est pas une maladie comme au sens psychiatrique du terme. Peut-être que ça le deviendra un jour, etc. La réalité de cette souffrance, encore une fois, elle existe. Elle est plus ou moins bien prise en charge. Et c'est aussi un rappel dans le livre de l'un de ces enjeux majeurs de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes, qui est aujourd'hui un des talons d'Achille de notre système de santé.
Merci Martin Hirsch. Hein. Je remontre à la caméra votre livre tout à fait passionnant. Et puis bonne lecture pour ceux qui nous ont écoutés et regardés. Au revoir.
Merci infiniment, c'était un plaisir de pouvoir partager ce que j'ai eu tant de passion à écrire.